un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Il entre à Canal+, en 2001, comme directeur de la stratégie et du développement. Quelques 10 ans plus tard, il est le numéro 2 de la chaîne cryptée. Rodolphe Belmer préside aux destinées de cette star de la télé et à celle du cinéma français. Il mène grand train. Au début du mois de juillet 2015, annonçant une vague de ménages rapide et musclée, il est rapidement débarqué et remplacé dans l'heure. Raphaël Baquet raconte dans Le Monde qu'il a fallu que son chauffeur Diego intervienne pour qu'il puisse remonter dans son bureau avant l'arrivée de l'équipe de ménage chargée de vider ses affaires. Depuis la reprise en main de la chaîne par Vincent Bolloré, ceux qui ont été virés ont dû quitter leur poste sur le champ sans sommation. Parfois, ils ont appris leur départ à l'occasion de la nomination de leur remplaçant. La méthode visait sans doute à installer la terreur et à pétrifier les salariés. Sauf qu'un mois plus tard environ, rassurez-vous, Rodolphe Belmer est rembauché illico à la direction de France Télévisions. Il a rejoint en 2018 le conseil d'administration de Netflix et en octobre 2021, il est directeur général du groupe informatique Atos. En septembre 2012, Ludovic Milis, lui, est ouvrier chez Toyota à Valenciennes. Durant le traditionnel discours de rentrée prononcé par le président de Toyota France, il s'absente un instant pour aller aux toilettes. Son employeur assimile cela à un abandon de poste. Il lui est aussi reproché d'avoir enlevé son casque de sécurité pour se gratter la tête et de ne pas l'avoir remis. Lui affirme que c'était pour téléphoner. Lors de l'entretien préalable, peut-on lire dans sa lettre de licenciement, il lui est précisé « Vous n'avez pas été en mesure de porter votre casque puisque vous vous grattiez la tête, or vous avez été vu avec votre téléphone portable dans les mains. Vous auriez dû le remettre après avoir fini de vous gratter la tête tout en tenant également votre téléphone portable. » Ludovic est licencié en octobre 2012, le conseil des prud'hommes est saisi, il a mis fort longtemps à retrouver du travail. Comment j'ai été licencié, 3 autres histoires par Émilie Chaudet.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
J'étais embauché en 2002, c'était un de mes premiers postes, en fait, après l'école. Donc oui, je finissais l'école, et j'ai passé l'entretien dans cette entreprise d'audiovisuel. Et donc je suis rentré effectivement dans l'entreprise en tant que chargé de production, pour un contrat qui était à la base initiale de 2 ans. À la fin de ces 2 années-là, il était question de reconduire le contrat. C'était pratiquement une formalité. Très vite, ça a tourné au vinaigre. Dans le sens où quelque chose qui n'était pas net dès les premières semaines, bon, j'ai mis ça sur le compte de départ de contrat, on se met dans l'entreprise, c'est un peu délicat, faut connaître un peu les gens avec qui on travaille. Et donc j'étais sous la responsabilité directe du directeur de production, qui s'avérait être aussi un des propriétaires de l'entreprise. Donc très rapidement, l'ambiance, c'était pas vraiment ça. On va dire beaucoup de pression, mais enfin ça je m'y attendais, c'est un métier exigeant, donc bon, je m'étais pas formalisé. Et au fur et à mesure, l'ambiance s'est dégradée très rapidement. Tous les matins, en fait, généralement, il débarquait à mon bureau et venait râler sur quelque chose qui allait pas, qui s'était pas bien passé la veille. Alors ça commençait par des reproches, notamment sur des pseudo-retards le matin, je me souviens. Il pouvait m'arriver d'avoir 5 minutes de retard parce que un bus, parce que j'avais quand même 1 heure de trajet pour me rendre jusque sur place. Puis bon, j'ai fini par prendre mes dispositions. Voilà. C'était encore du domaine de l'acceptable. Ce qui l'a été beaucoup moins très rapidement, ça a été le ton et la manière en fait de s'adresser à moi. On aboyait les ordres. Et puis tout doucement, ça a commencé des insultes, carrément. J'ai commencé à avoir peur. C'est là où j'ai vraiment commencé à avoir peur. Et un jour, alors que j'ai consulté mes dossiers, on avait un petit réseau d'entreprises Donc les ordinateurs étaient connectés entre eux, puis on avait un disque dur plus ou moins commun, on avait chacun notre dossier, nominativement. Donc je rangeais une grande partie des dossiers que je pouvais traiter dedans. Et un matin, j'ai été étonné de trouver un document avec mon nom dessus, que je n'avais pas laissé moi-même là par hasard. Donc j'ai ouvert le document. Je me suis rendu compte que c'était une lettre de licenciement qui m'était adressée, non datée, signée, et qui faisait référence au fait que j'étais constamment en retard, que j'étais effectivement incompétent par rapport aux tâches qui m'étaient demandées, et que, en fait, par la présente, il notifiait que ils me licenciaient à cette date, alors qu'effectivement, il n'y a pas de date dessus. D'abord, mon sang n'a fait qu'un tour, on va dire. J'ai eu le sang qui s'est glacé, parce que bon, on tombe là-dessus, on se dit, oh mon Dieu, c'est après que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas la date, quoi. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une manière de m'annoncer la chose, finalement. Et le sujet risque d'être abordé d'ici sous peu, et puis bon, c'est une question de temps. Donc pour moi, j'attendais le moment où on allait m'annoncer le licenciement. Et ce n'est pas venu. Donc ma grande surprise, j'ai attendu toute la journée dans l'angoisse en me disant bon bah voilà, c'est le sujet va être évoqué, et moi par peur, c'était étrange comme réaction, mais d'un certain côté j'ai pas relevé non plus, j'ai pas fait de remarques là-dessus, mais ça m'a hanté après par la suite, parce que c'était une épée de Damoclès, j'ai pas compris ce geste-là, c'était une menace supplémentaire, finalement, quelque part. La situation au travail était devenue telle que certains matins, je partais au travail en larmes, hein. J'étais mal, dans le sens où je savais que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce que j'allais faire n'allait pas être bien, de toute façon. Et donc, j'avais développé toute une forme de stratégie d'évitement. Je voulais pas le voir, je voulais pas qu'on se croise. Quand je savais qu'il était en déplacement, je respirais, quoi. C'était un vrai plaisir de savoir qu'il n'était pas là. Et cette lettre est restée effectivement là, dans ce dossier-là. Alors, je me rappelle, j'ai dû la ranger ou la déplacer à un moment ou un autre.
Vous l'avez pas jetée à la corbeille ?
Non, je l'ai pas jetée. Je me suis dit, bon, bah, ok. J'ai continué à, entre guillemets, à vivre comme si j'avais rien vu, comme si ça n'était jamais arrivé. Je crois qu'il y a eu un basculement à ce moment-là, bien entendu, quand il y a eu cette lettre. Elle est arrivée assez tôt, en plus, dans le contrat. Si je me souviens bien, c'était après la période d'essai, en plus, paradoxalement.
Donc après trois mois ?
Oui, c'était 3-4 mois, au bout de 3-4 mois de poste. Donc c'était pas cohérent, parce qu'à ce moment-là, s'il m'était reproché ce qu'on m'avait reproché, ça aurait dû se faire pendant la période d'essai, mais enfin bon. Et donc, j'ai eu honte. C'est un sentiment de honte, en fait, d'échec personnel. Et c'est ça qui a été particulier par la suite, c'est que il a fini par me convaincre d'une certaine manière que je pouvais être aussi mauvais qu'il le prétendait. Et donc on a continué dans cette situation cauchemardesque pendant pratiquement les 2 ans. Il m'a retiré de plus en plus de responsabilités. Donc c'était vraiment une entreprise de destruction. Ça a été de mal en pis sur les 2 ans. Ça a été une descente aux enfers.
Et toujours pas un mot sur cette lettre de licenciement ?
Non, toujours rien. Elle a flotté de manière... je me disais en fin de compte qu'il attendait d'une manière ou d'une autre une preuve de faute de quoi que ce soit pour me dégager. À l'arrivée, à la fin des 2 ans en question... Je me doutais bien que il allait falloir se confronter à un moment ou un autre, discuter des choses, remettre les choses à plat. Et alors il s'est passé quelque chose de très 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 particulier, c'est que pendant le dernier mois de contrat, là encore c'est difficile de se demander s'il a fait exprès ou pas, il n'était plus joignable. Je ne le voyais plus. Il était en déplacement constamment. Les rares fois où on se croisait, il était débordé. Et donc, on est arrivé à un point où m'avait dépossédé quasiment de tout mon travail. Je venais au travail de manière complètement automatique, où je venais pour rien y faire. un tel point que je me suis dit, bon, t'es quand même un peu bébête si tu penses de toute façon que le contrat va être signé. C'est quand même... Est-ce que j'étais encore dans l'idée de continuer, hein? Il y a quelque part un moment où on se dit, bon... Enfin, je sais pas, c'était assez curieux. J'étais pas dans l'idée de partir. Et puis, est arrivé le jour J. C'est vraiment le dernier jour. Je suis parti le soir à la fin de la journée de travail. J'ai remis les clés à ma collègue. J'ai vidé mon bureau, tout seul. Et je suis parti sans avoir un seul mot d'échange avec mon patron, ma direction. Je suis parti, j'ai pris mes affaires, c'est comme si j'avais jamais été là. C'est une des sensations les plus difficiles et les plus étranges que j'ai eues de toute ma vie. Cette impression comme ça d'avoir été un fantôme ou je ne sais pas trop quoi. Comme si j'avais vraiment l'impression de sortir de là comme on aurait sorti des poubelles, quoi. C'était vraiment cette sensation-là très étrange. Et puis j'ai eu la sensation d'être volé de quelque chose. C'est-à-dire que j'attendais quand même le minimum qu'il y ait un petit point qui soit fait par rapport à ça, quitte à qu'il soit franchement désagréable, parce que je m'attendais qu'il y ait quelque chose de très désagréable qui soit dit. Et même de ça, j'ai été volé. Et cette lettre, elle n'a jamais été remise, mais elle a été présente tout le long. C'était en ça que c'était particulier. Parce que effectivement j'ai travaillé licencié.
France Culture, les pieds sur terre.
J'étais la première traductrice en France dans cette société, ouais. Initialement, on était très peu, et puis après, bon, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Une équipe en parallèle aux États-Unis, dans la maison mère au Texas, s'est formée également. Voilà, ça a super bien marché jusqu'au jour où, malheureusement, tout s'est un peu envenimé. Je suis restée 19 ans et 7 mois. Ouais. Le mardi 7 août, au matin, j'avais un passage de la poste, vous savez, qui disait qu'un recommandé à mon attention unique et non pas à celle de mon mari à moi. C'est ce qui m'a un petit peu inquiétée. D'habitude, tous les documents avec recommandé arrivaient à monsieur ou madame. Et du coup, là, c'est arrivé au nom de madame. Oh, tiens, je me suis dit, un chèque est arrivé, enfin, un truc. Hein, bon, franchement... Je ne me doutais absolument de rien, j'y allais, il fallait juste que j'attende que la poste ouvre. J'étais censée être au travail à 8h parce que j'étais la première à ouvrir la porte, les lumières du marketing, etc. Et là, il a fallu que je sois un peu en retard pour aller chercher le relevé. Je me suis présentée à la poste et voilà, on m'a tendu cette lettre. J'ai immédiatement vu le logo de la société sur la lettre. Je voulais pas y croire. J'ouvre la lettre dans la voiture. Je tremblais déjà. Là, je lis un truc. Je me suis dit non, c'est... Ils se sont trompés de Christine parce qu'en fait, on était deux Christine dans la société. Et très égoïstement, je voulais pas admettre que c'était moi dont je voyais le nom et le prénom. Et on m'invitait à me présenter le vendredi d'après. Pour un entretien préalable de licenciement. Je me rappelle plus exactement de la formule consacrée, mais elle était comme ça, consacrée. Et là, j'ai pas compris. Donc, j'ai fait machinalement le chemin jusqu'à la société. Je suis passée devant mon chef de l'époque, enfin, mon chef, tout simplement. Et là, je lui ai demandé de venir en entretien. Pour une fois, c'était moi qui le convoquais en entretien dans la salle d'en face. Il a vu que je tenais le papier. Et là, je lui ai dit, ça y est, vous êtes content? Il penchait la tête, il se mettait même la tête dans les mains comme ça. Et moi, je le regardais droit dans les yeux. Et... Ah, je me rappelle même plus ce que j'ai fait ce matin-là. Je me rappelle juste de cette engueulade. Je me rappelle avoir pleuré. Je me rappelle être revenue à mon bureau. Tout le monde me regardait. On était en open space parce que j'avais gueulé. Hein. J'avais gueulé dans la pièce d'en face. Et voilà, donc tout le monde me regardait. Des gens ont bien compris qu'il se passait un truc parce qu'une collègue est venue m'embrasser par derrière dans les cheveux. Sous-entendu, elle a dû comprendre qu'il y avait un petit quelque chose. Moi, je disais toujours rien. Et voilà. J'avais les coordonnées d'un avocat. Et là, je l'ai appelé de suite. Il partait le soir même en vacances. C'était en août. Il m'a demandé de lire le contenu de la lettre. Et moi, je me rappelle lui avoir dit « Maître, il y a peut-être une chance que... » Il me dit « Non, c'est fait, madame. Sachez que ce genre de formule, c'est fait. Vendredi, vous ne faites plus partie de la société. » Il me l'a dit dans des termes tellement forts. Il m'a dit « Il faut que vous l'entendiez, c'est déjà fait et c'est sûrement fait dans leur tête depuis longtemps », il m'a dit. « Vous n'avez pas commis d'erreur », parce que moi je lui ai dit « Mais j'ai commis aucune erreur ». Il m'a dit « Mais vous n'avez pas besoin de commettre des erreurs. Dans les sociétés américaines, vous m'avez dit votre âge, c'est déjà une erreur ». Mais alors ce qu'il m'a dit « On se rappelle, là vous vous dépêchez dans les 4 jours qui vous restent, vous avez encore la chance de rassembler des preuves, des éléments, rassembler tout ce que vous pouvez, un maximum d'emails, car après votre poste sera bloqué ». En fait, tout ce qu'il m'a dit s'est passé. Donc j'avais quelques jours, du mardi au vendredi, pour récolter, recueillir tout ce que je pouvais. Je rassemble quoi? Je rassemble des mails d'insultes ou de trucs, et j'en ai pas. Tout le monde m'a toujours dit bravo. Donc je rassemble quoi au fait? Ben, du coup, je me suis mise à rassembler des éléments qui prouvaient au contraire que j'avais plutôt bien bossé. Et ça pas tardé, le vendredi d'avant, je me rappelais avoir reçu un mail de félicitations de celui qui allait après m'accabler dans la lettre de licenciement, qui me disait « Ouais, c'est super, ouais, bravo, vous avez super bien bossé les filles ». Les filles, c'était nous, mes collègues et moi. Et là, je me dis « Tiens, c'est curieux, ce mail-là, je vais l'envoyer à mon avocat parce que il colle pas avec le message de la lettre, il y a quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait donc entre les deux ?» Toute la semaine, on s'est fui, enfin surtout lui, parce qu'il me voyait ranger mes tiroirs. C'est long de ranger 19 ans de tiroirs, c'est douloureux aussi, hein, parce qu'on croise des choses dans les tiroirs. Il a juste éprouvé le jeudi soir l'envie de poser un RTT pour le lendemain, le jour de mon licenciement, ce qui faisait qu'on ne s'est même pas dit au revoir. Il a juste envoyé un SMS 3 jours plus tard en disant « Je suis désolée de ce qui vous arrive, patati patata ». Donc 19 ans et 7 mois plus tard, on ne se sera même pas dit au revoir correctement. Donc, ouais.
On ne vous a jamais donné une explication concrète de ce licenciement ?
Si. Ça s'est passé le vendredi après-midi. Le directeur général de la société revenait des États-Unis. Il venait de sauter d'un avion. Il avait fait les 12 heures de vol. Et du coup, il arrive et puis il me lit. Hein, il me lit le courrier qu'il va me remettre plus tard. C'est un courrier qui me dit que je suis insuffisante rédactionnelle. C'est juste ridicule. Il a senti qu'il fallait pas abuser non plus. Je me rappelle lui avoir dit « Vous touchez à mon âge, vous touchez à mon physique, vous touchez à tout, mais vous touchez pas aux Français. » J'aurais préféré qu'il me dise « Trop chère, trop vieille. » Vraiment. C'était moins ravageur pour moi. Cette insuffisance rédactionnelle résonnait, mais je me la répétais en boucle. C'était ravageur pour moi. D'ailleurs, je l'ai dit au directeur, je vis une petite mort. Vraiment. Être dégagé sur ce qu'on connaît le mieux par des gens qui accordent même pas le participe, c'est juste... Ah, il y avait des fautes dans la lettre de licenciement aussi. C'est la plaisanterie, ouais, c'est l'ironie du truc. Même mon avocat a dit, ils sont gonflés. Quand on sait même pas écrire marketing... Dégager quelqu'un pour insuffisance rédactionnelle. Ouais, si c'était pas dramatique, j'en aurais ri, mais ri. Mais à l'époque, j'étais plus effondrée que. Enfin, j'ai pleuré tout du long d'ailleurs. Et ben voilà, je ne suis plus jamais revenue dans la société au-delà de ce vendredi-là. Je n'ai pas rendu mon badge, j'ai gardé mon badge. Ça fait peu de temps que je l'ai jeté. Le lendemain de mon retour de vacances, entre guillemets, je me suis inscrite sur le bénévolat de l'ONU. Et maintenant, 13 traductions bénévoles plus tard, le bureau de l'ONU de Vienne me propose d'être traductrice contractuelle pour eux. Je pense que j'ai pas choisi l'ONU au hasard. Je pense, hein, je veux pas faire des déductions à la noix, mais comme ils sont très durs dans la sélection, c'était une histoire de me prouver que non, j'étais tout sauf insuffisante. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est la meilleure des récompenses que je me suis accordée.
c'était mon deuxième emploi. J'avais eu un contrat d'un an avant et j'avais trouvé ce travail. Et je me rappelle très bien du jour où on m'a annoncé que je l'avais. J'avais décroché la timbale. Je me rappelle que j'ai eu une très grande émotion. J'étais très heureuse. C'était le job de mes rêves. J'étais chargée de production et de billetterie. J'ai passé 2 ans plutôt difficiles, mais je me suis toujours appliquée à faire bien mon travail. En fait, on m'a annoncé que je devais partir, qu'il fallait restructurer, réorganiser, et que cette réorganisation ne pouvait pas se faire avec moi. Et ça, il y a un flot de larmes qui est sorti. Et je m'en suis beaucoup voulu après d'avoir cette réaction de petite fille, en fait. J'aurais voulu être beaucoup plus forte face à eux, et je ne l'ai pas été du tout. Et je crois que même tout au long du mois où on a discuté, le mois qui m'a conduit jusqu'à la faute grave, j'ai pas été à la hauteur. Donc la rupture conventionnelle m'a été demandée dans un premier temps. Là j'ai dit ni oui ni non, j'étais suffoquée. Mes patrons ont essayé de rentrer en contact avec moi. Pendant le moment où j'ai pris des jours pour chez moi, donc ça s'appelle un arrêt maladie, pour un peu digérer ou en tout cas encaisser, ils ont pris contact avec moi par téléphone pour m'expliquer, pour toujours ce paternalisme insupportable. Je n'avais pas compris le message, c'est une question de réorganisation. Et j'ai haussé le ton par écrit. J'ai expliqué que maintenant il fallait respecter les règles, hein, me convoquer, etc. Ça a été le seul sursaut que j'ai eu au final. Et je crois que ça a déclenché tout le reste. Ils ont eu peur. À partir de là, quand je suis revenue au travail, puisque je suis revenue au travail, j'ai travaillé avec eux pendant 2 semaines alors que cette procédure était en cours. On m'a dit que pour moi maintenant il n'était plus question de rupture conventionnelle, mais que pour m'en sortir il était peut-être bon de démissionner. En fait, voyant que j'étais pas décidée franchement à m'en aller dans ces conditions, ils ont fouillé dans mes mails pendant mon absence et dans les dossiers qui étaient sur le bureau de mon ordinateur. Et là, en fait, ils ont déniché des motifs de licenciement pour faute grave. J'avais transmis des adresses de clients à mon homologue d'une autre structure pour de l'achat de billetterie. Il y avait ça, ils ont trouvé un mail où je disais que c'était des connards. Voilà. Que j'avais écrasé, hein, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils l'ont trouvé, quoi. Je pense que... ça faisait un moment qu'ils regardaient ce qui se passait sur mon ordinateur. Et au final, j'ai trouvé des captures d'écran sur mon ordinateur. Et on m'a expliqué, quand j'ai demandé pourquoi ça se trouvait sur mon ordinateur, que là, on avait de quoi m'emmener bien plus loin qu'une gentille rupture conventionnelle. Et c'est ce qui est arrivé. En très peu de temps, là, on est parti sur la faute. Et quand j'ai reçu le courrier, là, on était sur la faute grave. Et j'ai ouvert la lettre, j'étais dans ma voiture.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, vos employeurs ?
Ils me reprochaient... en tout cas, dans les motifs de licenciement qui ont été retenus, il y avait un manque de loyauté. C'est ce qui en est ressorti, en fait.
Ça a été écrit, ça ? Manque de loyauté ?
Ouais, manque de loyauté. Ce qui m'a particulièrement touchée. Et là, j'ai pleuré. Et je me suis très vite dit que ça allait être difficile d'aller au prud'homme, hein, parce que le dossier contre moi était serré, qu'il était difficile à défendre. Et on dit souvent que c'est difficile d'aller au prud'homme, hein, mais c'est aussi difficile de se résoudre à ne pas y aller. Et il faut composer avec ça. Et voilà, ça c'est douloureux. Puis il y a eu le jour de la mise à pied. Il avait été annoncé le premier du mois qu'il fallait que je m'en aille. Au 31, à midi, le président de mon association est venu me chercher. On travaillait à ce moment-là dans un open space, donc devant mes collègues. J'ai remballé mes affaires, dans un flot de larmes, évidemment.
J'ai remballé mes affaires et j'ai signé un papier qui disait que, oui, je me rendais compte de ce qui était en train de se passer. Un papier qui dit que vous êtes mise à pied. J'ai rendu les clés. Et puis là, c'était un drôle de moment parce que j'ai cru voir de l'émotion chez le président de mon association. Et c'était ça qui était troublant, c'était cette espèce de « on n'a pas le choix et ça nous fait du mal, mais parce que toi, tu nous en as fait ». Et ça, vraiment, c'était assez misérable, je pense, comme tableau. Et puis, je suis partie sous les yeux, mes collègues étaient impressionnés par ce qui se passait. On était une jeune équipe, une moyenne d'âge 25 ans. Et là, on est dans le réel, en fait. Le monde associatif, c'est très convivial. On se tutoie, on boit des coups à l'extérieur, etc. Tout ça est un leurre. Là, on était dans le dur. Et donc, je suis sortie sous le regard de mes collègues. Et je suis partie et je suis remontée au volant de ma voiture. Et là, les larmes se sont arrêtées. Il y a eu 15 jours, en fait, entre la mise à pied et puis l'entretien final. Et il ne s'est rien passé. C'était encore deux mondes qui ne se comprenaient pas, comme ce qu'on avait été pendant deux ans, au final. Donc, on est sortis et puis c'en était fini. J'ai gardé la lettre de licenciement où les fautes sont énumérées. Celle-là, j'ai vraiment du mal à la relire. Ça, c'est comme une partie de moi que je pourrais pas jeter, en fait. Je sais pas, c'est impossible de... Je la garderai toujours.
C'était « Comment j'ai été licenciée », un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Sylvain Richard avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à Audrey, Christine, Vincent, Xavier, Pascal, Hélène Casalis. Première diffusion en 2015. C'est Jeanne Coppet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Justine Calais, notre stagiaire.